Tranche de vie, une émission proposée par JF. Il s'agit de M, une citoyenne américaine qui vit en France depuis plusieurs années et qui a consacré sa vie à plusieurs formes d'expression artistique dont elle va nous parler. M, bonjour. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs quel est votre lieu d'habitation actuel et ce que vous faites, à quoi vous consacrez votre existence. Ensuite, nous reviendrons sur cette existence pour en analyser toute la richesse.
Bonjour Jean-François. Je m'appelle M. Briand. J'habite dans le Limousin maintenant. Je suis américaine, comme vous avez dit, mais j'ai maintenant ma citoyenneté française. Je suis très fière. J'étais aux États-Unis, j'étais comédienne. Et puis, j'étais une personne qui vivait dans la sauvagerie. Et j'ai toujours peint et depuis ma première jeunesse. Et je suis ici en France. Je peins et je sculpte. Voilà.
Vous dites que vous viviez dans la sauvagerie, mais vous n'avez pas toujours vécu dans la sauvagerie. Sauf si vous dites que New York City est une ville de sauvages.
En effet, New York City est une ville de sauvages, mais j'aimais beaucoup. Mais à l'âge de 40 ans, j'étais comédienne. Je voulais toujours être comédienne. J'ai étudié un peu au conservatoire à Paris, au cours Florent à Paris. Mais un jour, je me suis dit, quand j'étais à Paris, j'ai fait la connaissance de Peter Sellers, qui tournait son dernier film à Paris. J'étais grande fan de Peter Sellers. Je suis allée voir Peter Sellers au studio de Boulogne, sans être invitée d'ailleurs. J'ai fait tout un cinéma pour pouvoir faire sa connaissance. Oh, qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune? Mais en tout cas, mais après ce rencontre, je me suis dit, je ne connais Peter Sellers qu'à cause du cinéma. Donc il faudrait que je rentre, que je quitte la France et que j'aille à Hollywood pour faire du cinéma. Ce que j'ai fait avec $50 et un Chevrolet de 1969. Très difficile.
Et là, vous avez malgré tout réussi à percer à Hollywood?
J'ai pu percer, si on veut, après 8 ou 9 mois. Il y avait une émission qui était très célèbre, là, qui s'appelait MASH, et émission de télé. Et ils cherchaient une Française, en fait, et mon agent, un tout petit agent minable, et moi j'étais personne, j'avais un CV avec des trucs inventés parce que j'avais rien fait, mais mon agent au téléphone, il cherche une Française pour cette émission. Alors on a décidé, ou moi j'ai décidé je pense, que je ferais semblant d'être une vraie Française. Je livrerais ma photo au studio 20th Century Fox et en parlant français. Avec un accent énorme. Excuse me, this is the place for the. Ok. Et ça a marché. La secrétaire, elle me regardait pas, elle voulait pas savoir. Quelqu'un livrait une photo. Et puis j'ai dit, is this the place? Oui, laissez la photo. This is the place for the photograph. Alors elle a levé la tête, m'a dit, mais you're French, vous êtes française? J'ai dit oui. Ok. Donc tout de suite j'ai eu rendez-vous avec le metteur en scène, producteur, tout ça. Tout le temps disant que j'étais française, et j'ai pu savoir que c'était la concurrence, c'était Sylvie Vartan.
Non mais ça c'est vraiment extraordinaire de ce que vous êtes en train de nous raconter là. Alors d'abord la concurrence avec Sylvie Vartan, et puis surtout cette rencontre avec Peter Sellers, et le fait que vous ayez participé à cette fameuse série MASH qui a eu tant de succès et qui a donné naissance au film d'Altman.
Non, vice-versa, le film était d'abord, et puis l'émission après.
C'est, la série est antérieure ? Non, elle est postérieure au film Natman. C'est le film de Natman qui a été tourné, je crois, aux années 70, début de...
Je sais pas, oui, peut-être bien.
Et, c'est, et alors, ouais, mais la série est très, très, très amusante aussi. Il va falloir que je la revoie pour essayer de repérer la française. Alors.
Une seule épisode. Mais oui, donc...
Bon, alors, cette expérience hollywoodienne, comment elle s'est prolongée et éventuellement terminée ?
Non, j'ai tourné l'épisode en, tout le temps faisant semblant d'être française. Je me souviens, on commençait à tourner une fois à 4 heures du matin. Quelqu'un m'a demandé si je voulais un café. J'ai dit, you bet I'd like a coffee. Oh mon Dieu. J'ai... Et puis, tout, heureusement, la personne avait autant sommeil que moi. Donc, ça s'est bien passé.
Des progrès en anglais.
mais il y avait le star, la vedette Alan Alda, il avait des soupçons. Il se disait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Il me demandait les paroles de la Marseillaise. Il faisait des trucs pour savoir. En tout cas, donc ça s'est bien passé. J'ai avoué tout à la fin. Mais je me suis rendu compte tout de suite après que Hollywood, ce n'était pas pour moi. J'aimais bien MASH, mais je n'aimais pas Los Angeles du tout, du tout, du tout. Je me suis dit, il faut que je sorte d'ici. Il faut que je quitte. Je vais trouver un moyen. Je me suis... je me suis présentée pour les grandes écoles de drama, de théâtre, Juilliard, New York University et l'autre, Yale. J'étais acceptée en plusieurs, mais c'était Juilliard à New York City. Ah.
Voilà. Donc là, vous êtes rentrée à l'école Juilliard, et c'est là que vous avez continué à apprendre votre métier de comédienne.
Voilà. J'ai passé trop longtemps là-bas, je pense. Mais c'était 4 ans, donc voilà. Je suis sortie un peu âgée. J'ai eu ma carrière m'a beaucoup plu, c'était très très bien. Dès le début, j'ai gagné ma vie. Mais puisque j'étais en retard, je pense, quand j'ai eu 40 ans, qui n'était pas long, après 14 ans, j'ai eu 14-15 ans de carrière, puis j'ai eu mes 40 ans, on m'avait bien dit que les femmes aux États-Unis, les comédiennes, ne travaillent pas après 40 ans. Sauf si c'est peut-être des grandes vedettes. Julia Roberts ou quelque chose.
Mais malgré tout, ces 14 ans, ces quelques 14 ans pendant lesquels vous avez fait votre carrière de comédienne, principalement dans le théâtre à New York City, ça a été quand même quelque chose d'exceptionnellement enrichissant pour vous, j'imagine.
Oui, oh oui, oh oui, oh oui. Et comme tous les comédiens qui survivent, j'ai dû faire des voix off, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la télé, j'ai fait des films, tout. Mais pourtant, à 40 ans, c'était temps de partir.
Et alors, vous aviez l'impression que à New York, vous sentiez beaucoup mieux qu'à Hollywood. C'était un milieu qui était, pour quelle raison, plus créatif, moins artificiel, plus ouvert.
Pour moi, Los Angeles, c'est provincial. Je ne sais pas comment dire en français. C'est
plus cruel, plus féroce.
Non, plus. Plus provincial, country. C'est pas très. C'est pas sophistiqué, mais pas sophistiqué. Mais c'est plutôt.
Un peu brutal, peut-être.
Peut-être, c'est le mot. Oui, il y a le côté brutal, mais aussi les gens ne réfléchissent pas beaucoup. Ils vont, c'est superficiel. Voilà.
Terre à terre, matérialiste.
Ok, tout ça, oui. Beaucoup moins à New York. Il y a les musées, mais surtout, on peut aller partout à pied, que j'aimais beaucoup. J'adore marcher. Donc, à New York, on peut marcher. À Los Angeles, il n'y a même presque pas de trottoir. Donc, voilà.
Donc vous étiez, bon, si on peut essayer de résumer, vous étiez dans une ambiance plus intellectuelle,
oui,
qui convenait mieux à vos attentes à New York.
Oui, tout à fait, oui, bien. Et puis j'étais plus proche de Paris, je pouvais aller dans 6 heures de vol à Paris, visiter mes amis ou simplement la ville elle-même. Donc c'était très bien pour moi. Pourtant... les 40 ans sont venus et une émission dans laquelle je jouais, un très beau rôle, très belle émission, était décommandée, annulée tout d'un coup, et c'était le moment donc de partir.
Vous avez pris cette décision brutalement ou elle a été mûrie
On m'avait dit, Marsha Mason surtout, je me souviens, mais toutes les femmes un peu plus âgées m'avaient dit, c'est plus la peine de continuer après 40 ans, faites une pause de 20 ans et revenez jouer les grands-mères. Tiens.
Alors, vous avez fait votre valise et vous avez décidé de faire une pause.
Oui.
Comment ça s'est passé, ça ?
Très très bien, j'étais élevée en partie à Paris et en partie au Nouveau-Mexique. Nouveau-Mexique, cowboy, indien, une géographie absolument splendide. Je me suis dit, et j'avais à ce moment-là, j'avais toujours, mon père était là et ma grande tante qui avait, je sais pas, et très âgée. Et donc je me suis dit, tiens, où je vais aller être utile pour elle ? Et puis voir mon père plus souvent, et je peux faire mes voix off, donc pour les publicités, de loin, via Internet. Donc c'est ce que j'ai fait, mais quand je suis partie, il y avait un festival, ils m'ont demandé de participer à un festival à Santa Fe, ma ville, et je me suis dit, en même temps, je vais chercher une maison à acheter. Et en même temps, cette visite-là, le jour que je suis arrivée, j'ai trouver l'homme de ma vie, mon grand amour, mon... Voilà.
Donc là, ça a été un double titre, le démarrage d'une nouvelle existence.
Mm-hmm. Tout à fait. Boum, comme ça.
Et ça a duré combien de temps, ça ?
La vie à Santa Fe, quelques années, avec Josh. Et puis, je ne sais pas exactement comment, mais on a commencé à, j'avais un terrain que j'ai acheté quand ma mère est décédée. Elle m'avait laissé un peu d'argent. J'ai acheté un terrain nulle part, mais sauvage. Et je l'ai dit à Josh et on s'est dit, mais tiens, on va aller voir. Parce que je ne le visitais pas souvent, il fallait une automobile spéciale. Alors on est allé, on s'est dit, tiens, allons-y ici. Allons vivre ici.
Alors là, c'était le désert, les cactus, les sages-bouches, le... Parlez-nous un peu du paysage, là.
C'était au pied des montagnes rocheuses. Donc, oui, aride, mais aussi à une altitude élevée, 4000 mètres. Donc,
les hivers devaient être rudes.
Oui, les hivers étaient rudes. Et on était juste à côté du Rio Grande River, la rivière, qui est à ce moment-là est au fond d'une gorge, on dit. Mmh. Ah, mon Dieu! Presque, je ne sais pas comment...
Un canyon.
Oui, mais très, très, très... Un petit Grand Canyon. Mm-hmm. Et donc, oui, les hivers sont rudes, il fait chaud l'été, mais c'était très bien. On était dans un endroit avec beaucoup d'arbres, de pignons, de juniper, cèdre et pignons, je ne sais pas comment dire.
Oui, les pins à pignons. Mm-hmm. Et ça, sur 330 hectares ?
Oui, c'est ça. 330 hectares, oui, c'est ça. Et on a... George Bush, le petit, était président. Et il allait tuer 50% plus de mustangs sauvages pour faire place à l'élevage bovine, je ne sais pas, bovin. Et donc, on s'est dit, tiens, aussi, on va adopter des mustangs puisqu'on a de la place, ce qu'on a fait. Et on les a débourrés nous-mêmes.
Pour contrarier George Bush, mais quand vous dites George Bush le petit, vous parlez comme Victor Hugo quand il parlait de Napoléon le petit.
Oui, je parle des deux, c'est le fils et c'est le petit. Oui, il nous a beaucoup inspiré, ce monsieur.
Alors vous débourriez les mustangs. Mm-hmm. Ça va pas être facile, ça.
Non, on l'avait jamais fait avant. On était fous et on était si loin, même d'une route. On était à, mon Dieu, 30 km d'une route bétonnée. Et cette route bétonnée était à encore 30 km de l'hôpital. Et la route non bétonnée était d'habitude impassable. S'il pleuvait, s'il neigeait, si... Ouais, très difficile. Mais pourtant, on a débourré des mustangs. Et ça s'est bien passé. Et voilà.
Mais alors là, ça, c'est une vie vraiment extraordinaire que vous avez eue là pendant ce temps-là. Ça a duré combien de temps, ça ?
Oh, des années, sans électricité, sans eau courante, tout ça. Mais en 2003, on avait la possibilité d'écouter une radio...
Avec une dynamo.
Voilà, avec une dynamo, parce qu'on n'avait pas d'électricité. Et on écoutait chaque soir une petite émission plutôt radicale. Et, pas vraiment, mais un peu comme Mediapart, mais à la radio. Et on entendait que Bush avait l'intention d'attaquer l'Irak. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. S'il attaque l'Irak, là, on tient plus le coup. L'Afghanistan déjà, mais là, on va quitter les États-Unis. Et puis, il a attaqué l'Irak. Et puis, Il a fallu faire ce qu'on a dit, ce qu'on a, on voulait, pour montrer notre non-participation.
Vous étiez engagé moralement à prendre le maquis si l'Irak était attaqué. Et vraiment, vous êtes la personne des solutions radicales. Et puis là, maintenant, vous n'étiez plus toute seule, mais vous étiez deux. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait là ?
On n'était pas que deux. Hein. Il y avait trois chiens, il y avait des chats, il y avait les mustangs. Alors, on s'est dit, il faut commencer à faire des recherches. Donc, depuis le ranch, qu'on appelait, on faisait des voyages de temps en temps, rarement en fait, mais en Europe pour voir où on pouvait aller. Voilà, pour voir. On est allé en Portugal. Mais apparemment, il y avait un tic. Et si les chevaux avaient eu ce tic, on allait amener les chevaux, bien sûr. Les tics, ils ne pouvaient plus rentrer. Et on savait que pour notre bien-être, il fallait avoir la possibilité de rentrer aux États-Unis. Donc, c'était fini, le Portugal. Et on continuait comme ça. Et éventuellement, on a vu que c'était la France. Il fallait venir en France.
D'accord. À cause de l'absence des tics ?
Voilà, parfait. Non. Non, parce que d'abord, je parlais français. Josh aimait beaucoup la France. Et la seule raison, c'était notre première pensée, la France. Mais on s'est dit, c'est sûrement trop cher ou trop difficile. Trop de bureaucratie, trop de... Mmh. Voilà. Mais après, avoir...
Tous les clichés, quoi.
Tous les clichés. Oui. Et en fait, c'était assez difficile, mais ce n'était pas du tout impossible. Et donc, on l'a fait.
Alors, la France, comme ça, radicalement, avec toute la ménagerie. Mmh. Et pourquoi dans l'endroit où vous trouvez aujourd'hui, est-ce que ça a été le seul endroit ou bien est-ce que c'est, vous êtes arrivé à l'endroit où vous êtes maintenant et vous y êtes resté ? Est-ce que vous avez essayé plusieurs endroits en France ?
Oh que non. On n'est pas mobile avec tous ces animaux. Et... Non, on est venu, on a quitté le ranch pour venir, on avait 8 jours, je pense, pour trouver une maison et l'acheter, ce qu'on a fait. Et la condition, la seule condition, c'est qu'il y avait une prairie pour les chevaux et que la maison soit habitable immédiatement. Et c'était au moment où les Anglais achetaient le plus de maisons avec prairie, donc c'était très difficile. Mais on a découvert le Limousin par Internet depuis le ranch. Et on s'est dit, ok, c'est le Limousin, on a choisi 10 maisons, on a fait des rendez-vous, et puis c'était la dernière maison,
voilà.
Heureusement.
Voilà, donc vous avez, alors moi je retiens que vous avez été, comme moi, une victime de l'engouement des Anglais pour la France, à cette époque, et puis que ben, le choix que vous avez fait, ça a été le bon choix, puisque vous y êtes resté.
Ah oui, mmh.
Alors, on va parler, si vous voulez, un petit peu de votre vie dans le Limousin. Vous allez me dire si elle est moins dure qu'au Nouveau-Mexique, si elle est plus dure à certains égards. Et puis ensuite, j'aimerais bien qu'on passe à vos autres passions, parce que vous en avez d'autres.
Ok.
La vie dans le Limousin.
La vie dans le Limousin. Le plus grand changement, c'est pas du tout difficile, c'est une belle vie, c'est une vie magnifique, ça dépasse ce qu'on aurait pu vouloir ou imaginer. Mais le plus grand changement pour nous, c'est qu'étant américain à fond, je veux dire vraiment de vrai américain, on avait cet esprit d'indépendance et de... dans l'isolation, on voulait bien être isolé dans la sauvagerie. On a trouvé ça, ce sentiment d'être... vraiment d'être seul, solitaire, le pionnier, cow-boy, tout ça. Et là, on était dans un petit hameau avec, 50 maisons et des voisins, même un voisin attenant. Les granges étaient attenantes. C'était la folie.
50 maisons, mais c'est pas un hameau, c'est un village, un bourg.
Nous n'avons pas d'église, donc c'est toujours un hameau, mais tout juste.
Ah bon ?
Oui. Oui.
Enfin, quand même, passer de 300 hectares Nouveau-Mexique... dans un hameau de 50 granges dans Limousin, ça doit faire drôle.
Oui, ça fait drôle. Mais c'est ce qu'il faut découvrir, et c'est énorme pour certains Américains comme nous, c'est la solidarité, c'est la communauté. Trouver comment survivre et ne rien perdre, mais plutôt trouver ce qui peut... ce que les voisins peuvent ajouter à une vie sans sacrifier ce sentiment d'être des individus. C'était très fascinant. Et heureusement, notre voisin le plus proche, Maurice, qui a 94 ans, est une sorte de Bouddha pour nous. Il est sage, il est merveilleux.
Alors Maurice est devenu votre gourou. Et si je vous ai bien compris, vous avez été accueilli dans des conditions qui vous ont satisfait.
Oh, oui.
Vous avez été bien accueilli.
Oui.
Pas rejeté comme des étrangers.
Non. Non, c'est assez étonnant et c'est très touchant. Très bien accueilli. Même, je vois tous les Anglais qui nous entourent sont aussi très bien accueillis. Ça m'étonne plus parce qu'il y en a assez d'Anglais que je pourrais voir. Aux États-Unis, on pourrait développer un préjugé. Mais non, très très bien réussi. Et même accueilli. C'est peut-être mieux d'être un étranger ici parce que les gens vous parlent et vous disent des choses parce qu'ils pensent que... Comment expliquer ça? Mais je trouve que c'est bien. Je suis très bien étrangère ici.
C'est vrai qu'à la campagne, en France, souvent les gens vous saluent et parlent volontiers avec vous. Ça, c'est un des côtés agréables, je crois, de notre pays. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les régions, mais dans le Limousin, vos animaux ne sont plus.
Oui, sauf qu'il faut faire attention que les chevaux ne mangent pas trop d'herbe.
Oui.
Mm-hmm.
Non, ils risquent les fourbures.
Mm-hmm. Oui.
Voilà, donc vous êtes obligé de les... Mais vous continuez à monter vos chevaux d'importation?
Non, je ne monte plus. J'ai eu un accident de cheval, je me suis cassé le dos. Merci à la France pour l'hélicoptère qui est venu me chercher pour m'amener à l'hôpital. C'était fantastique. Aux États-Unis, ça aurait... J'étais en train de tomber, j'étais dans l'air, au-dessus du cheval, j'étais en train de tomber, je savais que ça allait mal se passer, et je me disais, tant mieux que nous ne soyons pas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ça aurait été la fin de notre vie financière, la fin. Ça aurait coûté à peu près trois quarts d'un million de dollars
pour que vous soyez évacué, soigné correctement.
Mais... Ils n'auraient pas fait sans la carte de crédit non plus, personne ne serait venu, donc...
Oublions ces aspects, la vie aux États-Unis qui ont certes leur importance. Et maintenant, venons-en à votre autre passion, une de vos autres passions, qui est la création manuelle, la création artistique. Alors, depuis quand et comment s'exprime-t-elle?
Depuis toujours, depuis ma jeunesse et c'est surtout la peinture, mais j'essaye de sculpter aussi. Je ne peux pas passer une journée sans dessiner ou quelque chose. C'est sûrement la faute de ma mère, mais je sais pas. Et en ce moment, je suis en train de créer un éléphant grandeur nature pour une association qui va recevoir les éléphants à la retraite en Limousin. Voilà, donc ça m'a pris des mois et des mois et des mois. Ça m'intéresse beaucoup pourtant et je ne suis pas trop triste du résultat, mais c'était dur.
Ça alors, c'est une sculpture que vous faites pour cette association.
Mm-hmm.
Une association qui va recevoir les éléphants à la retraite, les éléphants des zoos ou des cirques, des choses comme ça.
Des zoos et des cirques, parce que beaucoup de pays maintenant en Europe
ils interdisent le
dans les cirques.
Oui, bien sûr.
On peut faire avec tous ces éléphants là. On peut pas les transporter jusqu'où ils viennent.
Bien sûr. Voilà. De toute façon, ils pourraient pas se réadapter.
Ouais.
Alors bon, mais ça c'est une création énorme. Mais est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots en quoi vous avez fait ça et...
En blood, sweat and tears. Il faut que l'éléphant soit imperméable, transportable, pas trop lourd, mobile, et qu'il ne coûte pas trop. Avec tout ça, je l'ai fait, l'éléphant, l'armature est en... isolation, rigide.
Vous c'est-à-dire en fil de fer en...
Non. Il y a des plaques d'isolation qu'on met, oui.
En placo plâtre, enfin, on... oui, d'accord. Oui, d'accord, en matériaux d'isolation. Matériaux d'isolation. Ça, c'est l'armature.
Oui, l'armature. C'est l'armature. Et puis après, j'ai rempli avec des bouteilles recyclées, des bouteilles en plastique, de Perrier, rempli, pour arrondir. Mmh. Et puis après, j'ai enrubanné avec... Non, il y a une peau de membrane qu'on met sous le ciment. Et puis après, il est enrubanné en multicolore.
D'accord. Voilà. Donc, il y a une peau en plastique autour.
Oui.
L'exigence de légèreté, elle est satisfaite par le bourrage avec des bouteilles de plastique vide. Mmh. Et par-dessus cette espèce de cocon en plastique, vous avez mis des bandelettes, des bandelettes multicolores. Mmh. Extraordinaire. Mmh. Cet éléphant, c'est un animal. Vous avez parlé de vos animaux familiers tout à l'heure. Et moi qui ai regardé votre site sur Internet... Mmh. Je sais que vous êtes un grand peintre animalier. Alors, est-ce que vous confirmez, est-ce que vous avez un intérêt particulier pour la représentation des animaux ?
Ben oui. C'est un grand malheur peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas un grand peintre animalier, je suis un peintre animalier. Mais je n'aime que ça, il est vrai. J'essaye de faire autre chose, mais je retourne toujours aux animaux. Je ne sais pas ce que c'est.
Moi qui connais certaines de vos peintures, je pense que je sais ce que c'est, parce que j'ai vu le regard de vos animaux. Et donc je sais ce que vous cherchez dans la peinture des animaux. C'est probablement ce qu'ils ressentent ou peut-être ce qu'ils pensent de nous.
Bien dit.
D'autres formes d'expression artistique ?
Oh non. Ah, bon, je ne sais pas. Oui, j'écris de temps en temps. Je joue un peu de banjo, j'ai joué du piano, mais non. Rien de... Non, comme tout le monde. Un peu de tout.
Mais vous écrivez des scénarios, non ? Vous écrivez des...
Oui.
Oui ?
Oui, mais un scénario, c'est rien si ce n'est pas tourné, donc... J'ai arrêté. Je pense que j'ai arrêté. Il y avait un moment que je me disais, ah oui, j'avais écrit des trucs assez bon marché que je pouvais, mais je me suis dit, non, à la fin, il y a une expression dans le showbiz, c'est un miracle qu'un film soit fait pour ne pas parler de grands films. Et c'est vrai, c'est vraiment un miracle quand un film est fait, tourner, simplement le fait de tourner un film, d'arranger tout ça, d'organiser.
Oui. Bon, je comprends bien ce que vous voulez dire, parce que moi je me pose souvent la question de savoir comment... des structures aussi complexes que des avions arrivent à voler sans tomber dès qu'ils sont décollés. Et je pense que pour effectivement la réalisation d'un film, c'est un petit peu du même ordre, quoi. Oui. C'est-à-dire faire tenir ensemble les pièces d'un puzzle extraordinairement compliqué.
Mm-hmm. Et qui coûte plus cher qu'un avion, probablement, ou aussi cher, oui.
Dans le Limousin, vous êtes bien, vous êtes tranquille, et vous créez, mais vous créez en compagnie de celui que vous avez appelé l'homme de votre vie,
oui.
Et qui lui-même est un créateur. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Oui, mon mari Josh Bryant est un écrivain. Il a toujours écrit, mais il était comédien. Tous deux, nous avons quitté, lui depuis Los Angeles, moi depuis New York, par coïncidence presque, on dirait. Nous avons tous deux... nous sommes arrivés au Nouveau-Mexique et nous nous sommes rencontrés, voilà. Et on avait tous deux joué sur l'émission de MASH la même année, peut-être même dans des émissions qui se sont tournées dos à dos. Mais voilà, on a fait connaissance et il écrit, et il a toujours écrit, et il vient d'éditer son livre qui s'appelle The Hard Way Up.
Donc vous avez rencontré Josh, oui. Sur le plateau de MASH.
Non, j'aurais pu.
Vous auriez pu, parce qu'il participait. Alors, il participait à d'autres scènes, au tournage d'autres scènes,
d'autres
épisodes.
Voilà.
Autre chose à ajouter sur le Limousin.
Que c'était un grand plaisir de faire votre connaissance, voilà.
Vous êtes très gentil. Merci beaucoup, M. J'encourage les auditeurs à aller sur votre site. M.
Cléo
Bryant avec un Y.
Oui, c'est ça.
.com. M. Cléo Bryant, tout attaché, .com. Allez-y, chers auditeurs. Merci encore, M.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.